comprend pas bien le mot logos. Vous pourriez l'expliquer, s'il vous plaît?
Alors, c'est un mot intéressant puisque, donc, comme j'ai dit, il venait des présocratiques, donc 6e siècle avant notre ère, hein, et l'idée que c'était ce que le langage permettait d'articuler sur le monde, ça a conduit à cette définition de la raison longtemps après, qui était le principe même de la réalité. La réalité est intelligible et le langage nous parle de la réalité de manière intelligible. D'ailleurs, on voit bien que quand l'influence de la pensée grecque s'est mêlée à l'héritage chrétien au 1er siècle, hein, le logos, vers l'an 100, entre 90 et 100, quand Jean écrit son évangile, hein, au commencement était le Verbe, c'est le Logos. Hein. Donc c'est vraiment, il a intégré là la pensée grecque qui donne du sens au monde. Hein. Et il continue, évidemment, et le Logos était auprès de Dieu, le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Donc c'est la fusion profonde entre cette vision grecque et ce qui va être son évangile, et il continue en disant « Il s'est fait chair et il a habité parmi nous ». On voit bien, je ne suis ni exégète ni théologien, mais on voit bien comment cette puissance de la raison qui rend intelligible tout ce qu'a apporté la tradition juive est intégré à ce moment-là pour donner ensuite les pères de l'Église et toute la pensée théologique qui va émerger. Et en ce sens-là, la raison s'éloigne des mythes, elle chasse les mythes. Hein, c'est Dieu que les prophètes déjà rejetaient comme étant des histoires, des contes de bonnes femmes, finalement. Et nous avons construit notre civilisation occidentale sur cette base, avec ses excès, peut-être au siècle des Lumières, mais nous avons construit tout sur le fait que nous pouvons construire un discours avec des mots qui construisent de la vérité. Et ce discours, c'était largement celui de la science, mais aussi celui de la philosophie. Est-ce que je suis clair? Mais je ne suis pas philosophe, donc je ne dis pas ça très bien et je ne vous vois pas absolument satisfaite. Peut-être quelqu'un d'autre peut reprendre ce point.
Excusez-moi, non, ce n'est pas pour reprendre ce point, c'est pour une autre question complètement différente. Je voudrais savoir, dans votre expérience comme un grand scientifique, est-ce que pour vous, savoir est un obstacle à croire? Est-ce que dans votre carrière, ça a été un handicap d'être finalement croyant, en mettant, ce que je veux dire, en mettant en perspective et en opposant un peu le fait que finalement, dans la science, et les 13,8 milliards d'années qu'on a de notre dépistage et notre compréhension de la cosmologie actuellement, finalement, tout le monde est d'accord sur le déroulement de l'histoire grosso modo et sur un certain nombre de constantes qui sont universellement reconnues. Or, le vrai problème pour le croyant, c'est que sa croyance n'est absolument pas universelle.
Oui, c'est... Bon, il y a deux parties dans votre question. Hein. La première, c'est de savoir si j'ai... Bon, d'abord... Bon, moi j'ai déroulé un travail de scientifique tout à fait honnête, pas extraordinaire, mais enfin, je ne peux pas dire que j'ai vécu des collisions intenses entre les représentations que j'avais pu recevoir de mon éducation chrétienne et mon métier de scientifique. Non. Je l'ai fait librement, avec beaucoup de liberté et d'admiration pour tout ce qui surgissait au fil des années. La difficulté est peut-être dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'héritage de représentations religieuses très figées me paraissait avoir du mal à résister à cet horizon scientifique qui se dévoilait. Et donc, il me semble avoir eu affaire à un chemin de purification intérieure, peut-être dire les choses comme ça, pour me dire qu'est-ce qui est essentiel. Et pour arriver peut-être aujourd'hui à dire, bon, j'ai du mal à croire en un Dieu tout-puissant qui tolère le mal sur Terre. Par contre, la personne du Christ me paraît un point de pivot dans l'histoire, totalement empreint de mystère, mais peut-être porteur d'une transformation radicale. C'était la vision de Théa en particulier. Et que notre problème aujourd'hui, je pense à mes petits-enfants, beaucoup ici sans doute, c'est comment on peut transmettre cette conviction qui est de l'ordre du croire et du singulier, comme vous dites, mais pas si singulier que ça, parce qu'elle est quand même partagée bonus, enfin, par un milliard d'hommes, donc c'était là une certaine résonance avec l'intimité de chacun. Comment est-ce qu'on peut la transmettre aux générations qui suivent en la dépouillant au maximum de ce qui la rend inacceptable, c'est-à-dire le refus de l'espace de perplexité. De ce point de vue-là, par exemple, je suis très admiratif de l'encyclique Laudato Si, de Pape François, parce que c'est le premier texte du magistère ayant ce statut qui reconnaît l'autonomie de la science. Écoutez les scientifiques, ils font leur métier, et s'ils le font bien, ceux qui disent, nous on n'a rien à dire. Ça n'a jamais été dit comme ça. Donc c'est important. Comme libération de la pensée. Je n'ai pas reçu ça il y a 70 ans. Et peut-être certains. Oui, madame.
Pouvez-vous nous dire, à votre avis, d'où viennent ces lois essentielles, stables, que les scientifiques ont découvertes? Découvrant, est-ce qu'elles viendraient peut-être d'un esprit organisateur?
Hypothèse. J'avais le droit de penser ça. Rien ne le prouve. Mais on peut le penser, et si vous voulez, c'est tout ce qu'il y a. Nous nous trouvons là, très exactement, au carrefour de ce qu'on a appelé la théologie naturelle et sa recherche qui date du Moyen-Âge, d'Albert le Grand, qui est de dire, est-ce que si nous avons des yeux attentifs, perspicaces, et que nous observons le monde, est-ce qu'il nous prouve Dieu? Il nous prouve comme 2 et 2 font 4. Personnellement, je ne le pense pas. Mais nous avons aujourd'hui, autour de nous, des courants de pensée qui continuent cette ligne de la théologie naturelle et qui disent, vous devez croire, et à ce moment-là, il ne s'agit plus de croire, mais de savoir. Mais, puisque ceci s'impose à vous comme 2 et 2 font 4. Alors, on peut disserter, je suis absolument incapable de le faire, donc je ne le fais pas, sur que serait la liberté de l'homme si il y avait une telle contrainte. Oui.
Une question qui peut-être rebondir sur la question de madame, mais différente. Pour vous, qu'est-ce qu'évoque la phrase « Dieu fit l'homme à son image »
Beaucoup de difficultés de pensée. Beaucoup de difficultés. Parce que, évidemment, nous entendons beaucoup autour de nous l'homme fit Dieu à son image. Et que.
Et réciproquement.
Et que le religieux est une revendication extraordinairement profonde dans l'homme. Il renaît toujours. Rappelez la phrase de Malraux, hein, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Bon, il a dit ça au moment où l'Holocauste nucléaire était un risque réel. Donc, il plaidait évidemment pour autre chose, pour la reconnaissance de ce besoin de l'homme. De là à dire maintenant, pour reprendre l'autre versant, hein, Dieu a fait l'homme à son image, moi j'adhère volontiers à cette phrase de Pascal que j'ai déjà citée, l'homme passe infiniment. Qu'est-ce que c'est que cet infini qui passe les apparences que l'on retrouve dans cette transcendance des lois, hein, mais que l'on trouve aussi chez celui qui peut donner sa vie par ce qu'il aime, hein, et pour ce qu'il aime, hein, c'est un signe. C'est un signe. Mais je serais hésitant et je refuserais même à employer le terme de preuve. Preuve au sens qui s'impose à tous de manière irréfutable et qui enlève donc le caractère singulier de la rencontre. L'Évangile nous dit quand même des choses fortes là-dessus. C'est une rencontre entre deux personnes, la réalité change, ta foi t'a sauvé. Donc c'est ta confiance, foi et confiance, hein, il s'agit du même mot. Donc il s'agit bien du moment où la confiance mise dans l'autre, le Christ en l'occurrence, sauve. Et pardonnez mes réponses hésitantes et peu convaincantes. J'essaie de parler en vérité, à mon âge, plus raisonnable.
Merci bien. Ma question est pour moi fondamentale. Je ne sais pas si. Je suis un peu dans le malaise de la poser parce que ce sera la première fois que je la poserai dans un public aussi large. Mais je crois que tout ce que vous avez dit est tellement à la fois honnête, poudreux et assez lumineux pour que je m'y autorise. Voilà, je ne crois pas à la résurrection du Christ et je suis dans cette église catholique depuis, comme la plupart des gens ici sans doute depuis ma naissance, dans cet espace de perplexité que vous avez bien défini et où je me retrouve, comme nous autres, je pense ici, très aisément et à notre satisfaction, si je peux dire, tout en étant dans la recherche et dans l'incertitude, pour ma part, ce n'est pas une conclusion d'ordre scientifique, c'est une conviction. J'ai détaché ma croyance de cet élément-là. Or, cet élément-là est fondamental. Tout à l'heure, vous disiez dans le credo, ceci, cela, je pense que ce sont des écailles qu'on peut laisser tomber, mais vous êtes passé par-dessus le point de la résurrection, et je le comprends, car c'est fondamental. J'ajoute un mot, c'est que je lis tous les jours, enfin, dans les articles qui traitent de ces questions, que sociologiquement, la moitié des pratiquants catholiques ne croient pas à la résurrection du Christ. Il n'empêche que, dans nos messes, dans toute l'expression publique de notre adhésion au Christ, de notre certitude qu'il a les paroles de vie et qu'il nous les a laissées, nous ne pouvons pas être à l'aise. Et je me demande, et j'en arrête là, d'autant que je ne pense pas que ce soit vous qui ayez la réponse, mais je veux dire que je voudrais bien, avant de mourir, il ne me reste pas beaucoup de temps pour cultiver cette attente, je voudrais bien que nos liturgies acceptent et fassent droit à des gens comme moi qui ne croient pas à la résurrection du Christ. Qu'on respecte cette attitude, qu'on n'impose pas de dire ce qui va contre notre profond attachement. Voilà, c'est tout, mais je crois que c'est important, une fois ou l'autre, d'entendre ça dans une assemblée un peu large.
Oui, je vous remercie beaucoup pour l'émotion et la franchise que vous mettez dans cette affirmation, et en même temps pour rappeler que pour beaucoup de nos contemporains, le point de vue est assez semblable au vôtre. Ça veut sans doute dire, bon, je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, donc je vais parler avec prudence, mais ça veut sans doute dire que la représentation que nous donnons de ce fait historique, attesté par, j'appelle historique ce qui est attesté par un texte, la définition même de l'histoire. Donc il s'agit d'un fait attesté par plusieurs textes, dont on peut discuter de la véracité, mais attesté. Que ce fait historique n'entre plus dans nos représentations contemporaines. Il n'entre plus. Donc, comment peut-on avancer à partir de là ? Bon, peut-être la première chose, c'est de le déblayer, si j'ose l'expression, de l'accompagnement d'autres faits tellement moins essentiels, tellement plus contingents. Bon, je mettrais quand même, quitte à choquer, la virginité de la conception de Jésus, hein, de le déblayer de ça, parce que c'est le seul fait essentiel de la foi chrétienne. Donc c'est le premier travail. Deuxième travail, il y a des exégètes, ou qui se disent tels, qui l'entreprennent, qui disent tout ça c'est parce qu'on n'a pas bien lu les textes. Si on les lit autrement, alors ça veut dire tout à fait autre chose, il s'est rien passé d'extraordinaire, en fait ce qui est extraordinaire c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, c'est le basculement des apôtres, et voilà, c'est ça qui a changé l'histoire. Et quant à ce fait de la résurrection, bon, alors vous avez quelqu'un comme Spong, qui a un succès de librairie absolument incroyable, hein, Jésus-Christ pour le 21e siècle, qui défend cette thèse à longueur de page. Bon, j'avoue que ça ne m'a pas vraiment convaincu, même pas du tout, et que le fait qu'il ajoute à ça une description du Big Bang pour montrer qu'il connaît de la science, elle est d'ailleurs pas très bonne, le disqualifie un peu plus encore à mes yeux. Bon, mais c'est une voie possible, après tout. Bon, l'autre, c'est évidemment que l'événement historique, s'il s'est produit, que la matière se transforme sans se transformer d'un corps charnel en un corps spirituel qui est quand même charnel et qui sera arraché à la vue des apôtres le jour de l'Ascension, est une histoire qui, pour un esprit plongé dans le savoir scientifique, plus ou moins aujourd'hui, est simplement intolérable, inacceptable. À moins d'entrer dans pleinement, de plein pied, dans ce domaine du croire, et de dire que c'est tellement essentiel à l'intelligence de la création tout entière, ce que Paul a essayé de faire dans ses épîtres, hein, c'est vraiment, il a sublimé le Christ ressuscité en la réponse à l'entièreté de la création telle qu'il pouvait la connaître. Bon, alors, est-ce que nous sommes prêts à faire cela, Mais c'est la question qui nous est posée. Est-ce que nous sommes capables de penser? Alors, quand on pense, bon, il se trouve que mon épouse est chinoise, elle a été élevée entièrement dans une culture chinoise, cette affirmation est pour elle aussi inacceptable qu'elle l'était pour les Grecs de l'Acropole devant qui parlait Paul. Nous t'écouterons là-dessus une autre fois. Tu nous racontes des salades, c'est ça qu'ils lui ont dit. Je pense que si l'on, encore une fois sans avoir de solution, mais je pense que si on arrivait avec un travail qui a commencé dans l'Église catholique quand même, après l'Oisy, disons, après la crise du modernisme, si on arrivait à faire le chemin auquel Ricoeur nous convoque, et à le faire en vérité et en profondeur, on n'aurait peut-être pas la solution à la question que vous posez, mais on aurait fait beaucoup de chemin dans cette direction, plutôt que d'être toujours sur des combats d'arrière-garde. Je ne dis pas que c'est facile. Quand un homme comme Teilhard l'a tenté, ça ne lui a pas tellement réussi, il n'a même pas pu devenir membre de l'Académie pontificale des sciences. Le général des Jésuites interdit. Donc, ça dit quelque chose des réticences. Mais c'est probablement pour nous le chemin. Laisser tomber tout ce qui est accessoire, accepter dans la vie de la société laïque contemporaine d'entrer pleinement dans l'espace de perplexité, et il me semble que c'est ce que beaucoup font le travail du journal La Croix depuis un mois autour des lois bioéthiques est remarquable, hein, d'ouverture, remarquable. Nous avons à l'Académie des sciences un comité d'éthique dont je fais partie, et on a un secrétariat qui nous envoie en préparation de réflexion sur les lois bioéthiques, qui nous envoie les documents qui paraissent. Eh bien, l'essentiel de ce que nous avons reçu, c'est les articles de la Croix. C'est quand même intéressant. Donc, pour le moment, il me semble que c'est à ça que nous sommes convoqués. Mais il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. Je pense que le pape François l'a très bien compris. Est-ce que c'est parce qu'il était chimiste de formation? Je ne sais pas.
La question que je voulais poser a été posée pour la première fois, je crois, par Teilhard de Chardin en 1929, au retour d'un voyage à Lourdes où il avait constaté des guérisons fulgurantes. Je n'aime pas le mot miracle parce qu'il est piégé et qu'il confond l'authenticité du fait discutable à vérifier et son interprétation religieuse. La question était pourquoi la science maintient-elle le mutisme et un silence prudent sur un fait indiscutable, aussi vrai que la Terre est ronde, il existe des de manière inattendu, très rare, dans une ambiance de confiance, de ferveur religieuse, des guérisons fulgurantes. Il me semble que si un dialogue pouvait intervenir sur un plan tout à fait objectif, indépendant de l'interprétation strictement religieuse et chrétienne, entre des scientifiques et des gens qui se posent des questions à ce sujet, qu'ils soient chrétiens ou pas, entrerait, serait utile pour combler cet espace de perplexité.
Oui, je sais en vrai de l'attention que tu apportes et le courrier récent des lecteurs que tu as pu faire paraître dans la Croix pour poser cette question avec pertinence. À quel point il serait important que la science puisse s'intéresser à ce type d'événement comme des faits objectifs appartenant à cette réalité qu'elle veut étudier. Bon, notre pays n'est pas le pays idéal pour traiter ce genre de questions, parce que il y a des résidus d'affrontements qui sont particulièrement intenses en France, comparé à l'Allemagne ou à l'Angleterre ou à l'Italie. Mais il faudra qu'on y arrive. Et évidemment, on trouve là un aspect du savoir que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui est que la science ne s'interdit aucune enquête. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne fait pas parfois les enquêtes avec des a priori. Prenez un homme éminent des neurosciences, comme Jean-Pierre Changeux, ses a priori pour lui sont nécessairement matérialistes. Nécessairement. Donc, on ne peut pas dire que quand il pense l'homme, il le pense autrement que comme un homme purement neuronal. Il n'a pas d'ouverture à d'autres possibilités. Ça ferme beaucoup. Donc ça veut dire qu'on étudiera, et ça l'intéresse d'ailleurs, la prière, la méditation, d'un point de vue strictement de neurosciences. C'est-à-dire réductionniste. Et on conclura que l'individu peut avoir des états de conscience supérieurs qui le mettent en relation avec d'autres, avec lui-même, de manière très riche, que tout ça vient du fonctionnement de nos molécules cérébrales. Ce qui est en partie vrai, mais évidemment c'est en partie qui est intéressant. Est-ce que il reste là-dedans une ouverture vers la transcendance ou non? Je ne sais pas si ce que tu souhaites se produira. Il y a une occasion que tu as soulignée d'ailleurs. Le pape François a parlé d'une béatification éventuelle de Blaise Pascal. Blaise Pascal, dans les textes que tu as rappelés, a été un témoin rigoureusement scientifique de la guérison de sa nièce. C'est bien sa nièce. Et le récit qu'il en fait mérite à la même qualité, à rigoureusement la même qualité scientifique, que le récit de l'ascension du Puy-de-Dôme pour mettre en évidence la pression atmosphérique. Or, le second est un des fondements de la science contemporaine, et le premier est ignoré.
Oui, mais le premier est reproductible aussi.
Voilà. Tout le problème consiste au passage, mais je crois que je l'ai dit et redit, hein, de l'objectivable, généralisable, reconnu par tous. Hein, encore une fois, c'était la formule d'ordonner, cette capacité d'ordonner ses pensées de façon universelle et nécessaire, hein, pour l'un, et l'événement singulier pour l'autre. Ceci dit, aujourd'hui, les neurosciences s'intéressent beaucoup à la conscience et à la singularité de la conscience dans chaque individu. On ne peut pas dire qu'elles recherchent des mécanismes généraux, mais quand même pour expliquer le singulier. Il faudrait travailler. Donc, j'évoquais simplement tout à l'heure la perspective de béatification de Blaise Pascal, qui est tout de même une perspective extraordinairement intéressante pour nous Français, bien sûr, mais aussi pour l'Église dans son ensemble, si elle aboutit, hein, pour être un moment où cette question que tu posais, André, redevienne discutée de manière solide, parce que tout le monde respecte Pascal. C'est un immense moment. Il a inventé le calcul des probabilités, quand même. Dont vivent toutes nos sociétés aujourd'hui. C'est pas n'importe qui. Oui, madame.
Est-ce que vous pourriez nous parler ?
Oui, j'étais interpellée par le fait que vous êtes membre aussi de l'Académie pontificale des sciences. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu rapidement, parce que je pense que ça pourrait être très long. C'est-à-dire qui est dans cette académie, et quels sont les buts, quels sont les travaux en cours actuellement, pour donner un exemple.
C'est une histoire extrêmement intéressante. Hein. 1603, un jeune prince qui s'appelle Federico Cesi parle de l'irrésistible désir de savoir. Il dit qu'il faut construire un lieu où se parleront les gens qui partagent ce désir. Et je vais appeler ça, comme le jardin d'Académos de Platon à Athènes, l'Académie. Et je vais lui donner un nom, des Lynchei, parce que les lynx avaient la réputation complètement fausse par ailleurs, de voir avec un œil de lynx, c'est-à-dire de distinguer là où les gens n'y voyaient que du feu. Donc, il crée l'Académie des Lincei, qui dépend du pape, évidemment, à Rome, hein, et dans laquelle Galilée va être membre. Cesi mourra très jeune, et au moment du procès de Galilée, il sera mort. Beaucoup d'historiens disent que s'il avait été encore vivant, le procès serait déroulé sans doute autrement. Mais voilà. Cette académie va durer jusqu'en 1860, où évidemment, après la victoire de Garibaldi, l'Italie la réclame. Et elle devient donc l'académie de l'Italie moderne, et s'appelle toujours Accademia del Lincei. Elle est installée dans le palais face à la Farnesina, le long du Trastevere à Rome. Et elle fonctionne comme notre Académie des sciences en France, comme la Royal Society. Elle a juste comme caractéristique d'être la plus ancienne de toutes les académies au monde. 1603, on a donc fêté, il y a 15 ans, son 400e. Que fait le pape? Exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Pie IX dit, je vais faire mon Académie catholique. À moi, on va penser catholique, il y aura que des savants catholiques et on fera, écrit-il, une science catholique. Donc, évidemment, c'est l'échec. C'est l'échec double, d'abord parce qu'une science catholique, ça ne veut rien dire, hein, sens, hein, et ensuite parce qu'il n'arrive à recruter dans cette académie que des savants de deuxième zone. Donc, quand Benoît XV meurt trop vite et Pie XI reprennent après la guerre de 14 la situation, ils considèrent qu'on va à la catastrophe si l'Église n'a pas, avec le monde moderne et ses développements scientifiques, un outil de dialogue. Alors ça va être très long, parce que le pape va rencontrer beaucoup d'opposition, et il va falloir plus d'une dizaine d'années, jusqu'à 1929, pour que la vieille académie pape qui s'appelle Nuovo Lincei, qui avait été fondé en 1860, s'éteigne de sa belle mort, parce qu'ils disparaissent tous les uns après les autres, hein, et que la nouvelle académie prenne son élan avec des statuts qui sont toujours les mêmes aujourd'hui, dans lesquels elle est nommée, les membres sont nommés par élection par leur père, ratifiés par le pape. Ça, c'est la règle dans toutes les académies du monde. Et non pas par un pouvoir quelconque. Et de fait, en général, quand nous proposons quelqu'un, il est accepté, une enquête de moralité. suis et il n'y a aucune condition de foi quelconque. Donc on trouve dans cette académie des agnostiques, des athées, des juifs, beaucoup. Et évidemment, ils ont, dans la proportion des prix Nobel, ils sont très nombreux. À peu près 30% de prix Nobel, et puis des croyants, des chrétiens. Mais ce n'est pas un critère. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on réfléchit sur les grandes questions scientifiques du monde contemporain. Exemple, j'en donne un seul. En 2014, peu après l'élection de François, les climatologues de l'Académie, et rejoints par beaucoup d'autres, il faut qu'on fasse un travail sur le climat de la Terre, les conséquences, et on l'a fait d'ailleurs avec l'autre académie qui est beaucoup plus récente, celle des sciences sociales, qui a été créée par Jean-Paul II vers 1881. Donc nous avons eu un workshop qui a duré presque une semaine, en faisant le tour de l'impact du changement climatique sur toute la forêt, les océans, la pêche, l'agriculture, les nourritures, l'éducation, la santé, etc. C'est là qu'est né, je crois, le propos de l'encyclique. Et certains de nos membres ont servi de conseil, naturellement pas, puisque c'est statutaire à l'Académie, pour la rédaction en particulier du premier chapitre de l'encyclique, hein, dont je rappelais tout à l'heure une phrase sur la science. Voilà. Mais l'année prochaine, on va s'intéresser à Internet, la numérisation de toutes les données des êtres humains, aux règles d'éthique, à l'intelligence artificielle.
J'ai lu récemment l'encyclique.
Laudato Si, oui.
Voilà, c'est ça. Et je la trouve magnifique, en particulier dans les chapitres qui traitent de l'humain.
Oui, mais évidemment, on ne parle que de ça.
Oui, mais de l'humain. Et dans la relation qu'il peut essayer de chercher avec Dieu.
Oui, je crois que c'est de la part du pape, c'est la moindre des choses, si je puis dire. De la part de l'Académie, c'est quand même notre préoccupation. C'est la science, ça nous passionne tous. Enfin, ce qui nous rassemble, là, à Rome, entre nous, c'est de parler de l'homme. Qu'est-ce que l'homme fait avec cette science? Comment il l'a fait? Qu'est-ce qu'elle vaut? Qu'est-ce qu'elle nous dit sur l'avenir? Qu'est-ce qu'elle nous dit sur nos représentations du monde? Hein, on a eu, par exemple, pour l'anniversaire de Darwin, hein, en 2009, une très, très très belle session sur l'évolution. Parce que l'évolution n'a pas commencé avec la première bactérie sur Terre. L'évolution est à l'œuvre depuis le Big Bang, mais sans doute même avant. Donc c'est une immense perspective, hein, ce que Michel Serres appelle le grand récit, hein, une immense perspective à laquelle toutes les disciplines qui sont présentes dans l'Académie apportent leur pierre, et ça rend ce genre de rencontre très, très intéressant. Mais il s'agit de l'homme, hein, bien sûr.
Je pose une question. Est-ce que dans les lois françaises, il y a quelque chose comme un comité de l'éthique qui joue un rôle au moment de la préparation des lois?
Ah oui, bien sûr. Nous avons le Comité Consultatif National d'Éthique, le CCNE, hein, qui a été, dont le premier président était l'immense figure de la médecine, le professeur Jean Bernard, hein, et qui existe depuis, et dont les avis sont, comme son nom l'indique, consultatifs auprès du Premier ministre et du gouvernement. Et donc il travaille actuellement aux avis qui seront rendus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé, d'ailleurs son nom a changé, puisqu'il s'appelait au départ le Comité Consultatif National des Sciences de la Vie et de la Santé, qui traitait de la biologie, qui était évidemment le point... Mais il a maintenant vocation à traiter de tous les domaines, par exemple de l'informatique ou de l'éducation, toutes les questions qui sont dans cet espace de perplexité. C'est l'organisation de la discussion sur la perplexité. De ce point de vue-là, c'est très intéressant, mais il n'a aucun pouvoir législatif, naturellement. C'est le Parlement. Alors, ce qui est aussi assez remarquable, c'est que, donc il a été créé il y a une trentaine d'années à peu près, les organismes de recherche, le CNRS, le CEA, le CNES, l'INSERM, l'INRA, l'INRIGA, c'est l'informatique, se sont progressivement chacun dotés d'un comité d'éthique qui traite des problématiques éthiques dans le champ disciplinaire particulier. Moi, j'ai présidé le comité d'éthique du CNRS pendant quelques années. Je suis aujourd'hui un spécialiste d'intelligence artificielle, Jean-Gabriel Ganassian, qui en est le président. Le CNRS est un peu particulier, parce que justement, il y a presque toutes les disciplines. Mais chaque organisme, c'était impensable il y a 30 ans. On disait l'éthique, c'est la biologie, c'est la procréation, c'est... voilà. Donc le reste ne pose pas de problème. Personne ne tient aujourd'hui ce discours. Donc, vous voyez, pour moi, c'est très important de souligner ça, parce que ça veut dire que la problématique éthique, c'est-à-dire du bien-vivre, comme dit Jean-Michel Beignet, le philosophe, du bien commun, du bien et du mal, comme on dirait plus en langage chrétien, cette problématique, elle est maintenant à l'interface avec l'ensemble du monde scientifique, qui ne campe plus, comme il le faisait encore il y a une trentaine d'années, sur « moi je fais de la science et le reste ne me regarde pas ». C'est un problème pour les politiques, pour qui on veut, mais ce n'est pas pour moi. Moi je fais mon boulot, hein, j'explore. Et ça c'est un changement très profond, et auquel les jeunes en particulier, les jeunes chercheurs, sont extrêmement sensibles. Et quand je réfléchis au lieu d'interface possible où on pourrait quand même changer un peu le disque, hein, et arrêter de parler de Darwin et de Galilée comme les reproches répétés qu'on peut faire au christianisme dans notre histoire, hein, l'éthique est le lieu où on peut se parler dans cet espace de perplexité. Où personne ne sait la vérité. On peut brandir des choses, mais c'est pas sûr qu'on convainc en brandissant des arguments. Et de ce point de vue-là, finalement, je trouve que la déclaration récente de l'épiscopat est assez prudente, assez intéressante. Madame, oui.
Est-ce que vous ne trouvez pas qu'avec les instruments de communication modernes qu'on a actuellement, la vérité souffre? Et je vais prendre un exemple concret. Moi, je suis médecin et on entendait tout le temps des émissions, par exemple, où on mettait sur le même plan un médecin et puis quelqu'un qui ne connaissait rien, et il parlait du vaccin et voilà. Et on avait l'impression qu'ils étaient à égalité. Et sur le plan scientifique, ils ne sont pas à égalité. Alors, est-ce que... Moi, j'ai l'impression qu'on n'entend pas suffisamment les scientifiques.
Vous avez tout à fait raison. Vous avez pris un autre exemple, c'est les vaccinations. J'avais pris celui du climat tout à l'heure, en disant mes deux interlocuteurs. Comment faire pour que dans notre société... ce sentiment que le projet d'épistémé, hein, de la science, du savoir, construit de la vérité à laquelle l'adhésion n'est pas une affaire d'émotion d'opinion. Hein. Ce n'est pas une affaire d'opinion. Personnellement, bon, je consacre une partie du mon énergie à l'éducation, à travers les projets La main à la pâte, parce qu'on avait oublié avec Jean Chapat, qui a déjà plus de 20 ans maintenant. Hein. Et je pense qu'un des vrais enjeux de ce qui va se passer dans la réforme du lycée, puisque Maintenant, tous les élèves auront en première et terminale un enseignement hebdomadaire autour de la science. Je pense que le plus important, et c'est un message que nous essayons de faire passer au ministre et à ses services en ce moment, c'est de faire passer ça. C'est que la science, c'est pas une opinion. C'est pas une opinion. On peut discuter ses résultats, mais c'est compliqué et la communauté scientifique est organisée pour cette discussion. C'est pas une discussion de comptoir. Donc, il faut avoir confiance. Cette confiance se construit. Et les scientifiques doivent faire beaucoup de chemin pour qu'elle soit acceptée. Mais je pense qu'il faut que nos jeunes, quand ils sortent du lycée, le bachelier, ils aient compris ça. Et il ne faut pas leur faire comprendre, évidemment, en leur disant si vous n'y croyez pas, vous aurez un bâton, et on va vous taper dessus. Il faut qu'ils y adhèrent parce qu'ils adhèrent par admiration. C'est prodigieux le récit du monde. J'évoquais Serres tout à l'heure, que la science nous dit aujourd'hui, que la médecine nous dit aujourd'hui, qu'elle est capable de nous décrire dans le fonctionnement de cet organisme incroyablement complexe qui est un être vivant. C'est prodigieux. C'est bien plus beau que tous les contes de fées qu'on peut raconter quand on a 5 ans pour s'endormir. Et d'ailleurs, la jeunesse en est en partie convaincue, mais pas quand elle sort de ses cours au lycée, malheureusement. Plus souvent quand elle écoute ça. Mais je pense que pour cheminer dans ce que vous dites, c'est une question de l'éducation. On en est un peu loin, et on en est loin aussi aux États-Unis, aussi en Grande-Bretagne. C'est comme si, on ouvrirait là un nouveau chapitre pour un long échange, mais c'est comme si au moment où chaque être humain dans les pays développés bénéficie, comme il ne l'a jamais fait dans le passé, des bénéfices de la science en termes de communication, téléphone, de transmission d'informations, Internet, de transport, voyage dans le monde entier, de santé, une espérance de vie qu'on n'a jamais eue aussi longue, de liberté pour les femmes, avec la possibilité de concevoir quand elles le désirent. Comme si tous ces cadeaux extraordinaires, sans parler des 3 ou 4 000 exoplanètes qui vont nous révéler des mondes nouveaux que personne n'avait jamais imaginé avant, etc., etc., et bien c'est comme si ces cadeaux magnifiques, on pouvait dire, bon, tout ça, c'est une erreur de l'opinion, on ne croit pas. Il y a une contradiction liée à l'abondance qui est très surprenante. Et pour nous, qui avons en partie charge d'éducation, ça nous pose quand même des problèmes. Qu'est-ce qu'on a mal fait pour en arriver là?
Oui, il ne faut pas être trop pessimiste quand même, parce qu'on parle de preuves scientifiques, comme si c'était une preuve plus crédible que les autres. Donc ça veut dire quand même que les scientifiques ont quand même encore quelques crédits. Une preuve, c'est une preuve. Mais une preuve scientifique, c'est une super preuve. On entend ça assez fréquemment.
C'est vrai, mais regardez quand même. Hein. On est un pays qui est... Madame le disait bien, dans lequel la couverture vaccinale est tellement insuffisante, avec toutes les preuves scientifiques qu'on a, qu'on a des épidémies de rougeole il y a quelques semaines qui ont tué des enfants, qu'on aurait pu protéger en faisant simplement ce qu'il était raisonnable de faire. Quand le GIEC dit on peut vous affirmer qu'à 95% maintenant, c'est le dernier rapport de 2014, que le réchauffement climatique et toutes ses conséquences, la montée du niveau des mers, etc., d'origine anthropogénique, j'ai envie de dire, oui, mais il y a 5% de ma chance. Qui montera dans un avion où on lui dit vous avez 95% de chances de crash. Personne. Donc, la preuve a du mal à convaincre. Beaucoup de mal. Ce temps-là, elle est vraiment forte. Et donc, il y a une vraie difficulté. Je pense qu'il faut qu'on travaille.
Une dernière question.
Juste une question d'éthique, réponse par
oui ou non, si vous êtes bref. Est-ce que vous croyez à l'homme-dieu ?
Un homme croit volontiers à l'homme-dieu, ça c'est sûr. Moi je crois qu'on nous raconte des histoires avec l'homme augmenté. L'homme qui devient éternel. C'est une manière de nous cacher les vrais problèmes de la Terre aujourd'hui. Et donc, on en reparle dans 4 ou 5 siècles, si vous voulez bien.